Mesdames et messieurs, en écoutant Cécile, madame la directrice, j'ai appris à avoir affirmé il y a 10 ans de cela, lorsque je portais la fondation sur les fonts baptismaux, que son utilité ne saurait être contestée. Puisque tout doit être remis sur le métier, tous les ouvrages, essayons de reposer cette question. Avais-je raison ? L'utilité d'une instance chargée de stimuler la réflexion dans le domaine de l'éthique est-elle incontestable, voire même cette activité, cet objectif, stimuler la réflexion dans le domaine de l'éthique, a-t-elle une chance de déboucher ? Vous voyez, je suis d'emblée provocateur, mais je vais prendre cette question à bras-le-corps, d'entrée de jeu. L'éthique dont on parle, éthique biologique et médicale, mais cela est vrai dans d'autres domaines, se définit de manière assez précise. C'est la réflexion et l'action sur la vie bonne, l'action correcte, et sur les valeurs qui la fondent. Tous les termes de cette définition sont essentiels. Interrogation sur la vie bonne, l'action correcte, est liée à ce que, dans le domaine qui nous occupe ici, l'innovation biologique et médicale, on ne connaît pas encore la signification de l'utilisation chez l'homme d'un pouvoir nouveau qui a été conquis, et l'on s'interroge. Dans une conception assez large de l'éthique, pas la seule, mais c'est celle dont je parlerai, qui est une éthique anthropocentrique, une éthique où l'homme est concerné, même quand je parle de l'éthique de l'environnement. L'éthique de l'environnement, au départ, a été définie par Hans Jonas comme cette obligation de léguer aux générations futures une terre compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine. Et donc, c'est l'importance de l'environnement par rapport à cette vie authentiquement humaine qui est alors présentée. Il existe d'autres éthiques de l'environnement non anthropocentriques. Mais cette interrogation sur la vie bonne dans ces domaines de l'innovation prend souvent la forme d'un conflit, d'un dilemme. On a acquis un nouveau pouvoir et les conséquences de l'utilisation de ce nouveau pouvoir sur l'humain ou ce qui a de l'importance pour l'humain n'est pas simple, elle ne va pas de soi. La loi ne peut le dire puisqu'il s'agit d'une innovation. La déontologie ne s'en est pas encore saisie. La jurisprudence n'a pas encore tranché. On est spécifiquement dans le domaine de l'éthique. Certes, la vie d'une personne a plus de valeur pour cette personne que pour quiconque d'autre. Cela étant dit, quand cette personne demande à ce que l'on interrompe la vie, faut-il d'emblée faire ce qu'il demande ? Ou faut-il considérer que cette demande est un appel au secours et ne reflète pas une vraie liberté ? C'est difficile de répondre à cette question. Nous sommes dans un dilemme éthique. L'embryon est incontestablement un début de personne, une éventualité de personne s'il se développe. Et il n'est pas en cela un matériel biologique banal, un grumeau de cellules comme les autres. Cela étant dit, une telle considération élimine-t-elle définitivement la menée de recherche sur cet embryon ? Là encore, la réponse n'est pas simple du tout, etc., etc. Tel est typiquement dans le domaine biologique et médical, le domaine de l'éthique. Mais il ne s'agit pas à pile ou face ou par d'autres moyens ou en fonction d'une autorité particulière et reconnue d'indiquer quelle est la réponse que l'on privilégie à ce dilemme, encore faut-il être capable d'indiquer au nom de quelles valeurs. Quelles sont les valeurs dans lesquelles se reconnaît la société qui permettent de conclure que telle réponse semble préférable à toutes les autres. Voilà ce qu'est la réflexion dans le domaine de l'éthique. Mais cet effort est illusoire, et dans ce cas-là, la Fondation Brochet est inutile, si il n'existe pas de valeurs universelles. Si ce que l'on pense en Suisse n'est pas ce que l'on pense en France, et encore moins en Espagne et en Italie. Si les valeurs sont totalement relatives à une philosophie, à une religion, à une zone géographique, à une période. Si ce qui est bien au-delà des Pyrénées est mal en deçà des Pyrénées. Auquel cas, comment voulez-vous que l'on s'accorde dans nos sociétés plurielles, où il y a parmi nous des gens qui croient au ciel et qui y croient de différentes manières, et des gens qui n'y croient pas et qui n'y croient pas de différentes manières, comment voulez-vous alors que l'on puisse jamais s'accorder sur des valeurs fondamentales? Ces valeurs sont obligatoirement de l'ordre du bien et du mal, c'est-à-dire de l'ordre de la morale, la morale définie comme la science du bien et du mal. La morale est-elle totalement relative à ces périodes, à cette civilisation, à cette culture? En dehors des enseignements religieux, la majorité des philosophes le pensent. Pour ce qui me concerne, je ne le pense pas. Je pense l'inverse. Je vais tâcher de vous en convaincre. Et comme je pense l'inverse, je considère que la Fondation Brochet est utile. C'est-à-dire que l'effort consistant à parvenir à une proposition que l'on arrive à fonder sur des valeurs admises, cet effort n'est pas illusoire, qu'il peut être efficace. Imaginons que la morale, le bien et le mal, soient totalement relatifs. Une conclusion devrait en être que le contenu moral d'un récit qui nous vient de la nuit des temps, de milliers d'années, de civilisations très éloignées de la nôtre, devrait nous être totalement inintelligible. Il n'en est rien. En réalité, le contenu moral de tous les récits du monde, quelle que soit la période où ce récit a été élaboré, nous est accessible. Un exemple, en mettant la barre très haut, le récit de Gilgamesh, sans doute antérieur à l'invention de l'écriture. Traditions orales reportées en écriture pictogramme pré-cunéiforme en Mésopotamie. Rappelons-nous des éléments. Ils sont très importants. En ces temps anciens, la grande cité d'Ur était gouvernée par un tyran d'une très grande cruauté, Gilgamesh. D'une totale brutalité, et il manifestait cette tyrannie en appliquant avec une rigueur totale, sans aucune exception, le droit de cuissage, se réservant de connaître sexuellement les femmes. Je pourrais dire bibliquement, mais la Bible n'a été conçue que bien après, donc ce serait un anachronisme. Connaître sexuellement les femmes avant que leur époux ne les connaisse. Les dieux, voyant cela, cette tyrannie, s'en offusquent. Et ils décident d'y mettre fin en créant un rival à Gilgamesh. Alors, avec de la glaise, de l'eau, ils façonnent un personnage, Enkidu, et ils l'animent. Vous voyez que là est l'inspiration de la Genèse dans la Bible, quelques milliers d'années après. Enkidu, cela dit, et je vois sur le récit de Gilgamesh un avantage sur la Genèse de la Sainte Bible, Enkidu est animé, il est grand et fort, mais il n'est pas humain. Car pour être humain, il faut avoir été humanisé par d'autres humains. Et il ne l'a pas été. Alors les dieux confient Enkidu à un groupe de femmes prostituées qui lui apprennent 1000 choses et qui l'humanisent. Et maintenant, il est doté de toutes ses capacités de héros bien humain. Et donc, il peut se présenter au bas de la muraille d'Ur et défier Gilgamesh. Gilgamesh, si tu m'entends, si tu n'es pas un couard, un pleutre, viens donc ici. Je veux qu'une fin soit mise à tes agissements coupables. Je te défie. Gilgamesh, il ne peut pas se défiler. Alors, il descend dans le pré, le champ, là, au bas des murailles. Et le combat commence. Terrible. Ils sont certes humains, mais un peu plus quand même. Et aucun ne peut définitivement l'emporter sur l'autre. Les jours et les nuits et les jours se passent et le combat continue. Après un certain temps, ils sont là, pantelants, allongés dans l'herbe. Ils n'ont pas encore repris le combat. Leurs regards s'accrochent l'un l'autre, s'arrêtent à l'autre, et ils se prennent à s'aimer. Alors ils deviennent amis. Et ils décident de parcourir le vaste monde, dans lequel ils vont défendre la veuve et l'orphelin, lutter contre les injustices. Mais au cours de ce périple, Enkidu en arrive, je ne me rappelle jamais pourquoi, à déplaire aux dieux, qui l'affectent d'une maladie cruelle, qui va l'emporter dans d'horribles souffrances. Durant toute cette agonie douloureuse, Gilgamesh est là qui essaye d'atténuer les souffrances psychologiques, physiques. Il tient la main de l'ami jusqu'à son dernier soupir. Et ensuite, Enkidu mort, il va témoigner de sa grandeur et de leur amitié. Et continuer tout seul un projet qu'ils avaient fomenté à deux. C'est-à-dire qu'il y a plus de 5000 ans dans la civilisation de ce croissant fertile du Tigre et de l'Euphrate, qui n'a rien à voir avec la nôtre naturellement, la tyrannie n'est pas bien, on comprend bien pour nous non plus. Le droit de cussage notamment n'est pas bien, on comprend bien pour nous non plus. L'amitié est bonne en revanche, ça va bien pour nous aussi. Lutter contre les injustices, défendre la veuve et l'orphelin, c'est plutôt bien. On n'a pas de difficulté, pour nous aussi. C'est-à-dire que considérer ce récit comme un test de l'hypothèse de la totale relativité de la pensée morale suffit à, en réalité, supprimer, effacer, invalider cette hypothèse. Il existe bien une base extrêmement ancienne, sans doute universelle dans le règne humain, dans l'espèce humaine, de la pensée morale. D'où vient-elle? Les croyants pourront considérer que c'est un don de Dieu, et je laisse aux croyants la possibilité de le considérer. Mais si l'on ne fait pas cette hypothèse, comment peut-on expliquer l'existence d'une base universelle à la pensée morale? En fait, le récit de Gilgamesh nous l'indique déjà. Enkidu, après qu'il a été façonné, animé, n'est pas humain, il a besoin d'être humanisé par l'autre. Pour être humain, pleinement humain, avec une capacité, des capacités mentales d'humain, il faut certes avoir hérité d'un génome humain. Si on avait hérité d'un génome de chimpanzé, on aurait le comportement et les capacités mentales d'un chimpanzé. Mais avoir un génome humain ne suffit pas. Il faut que les capacités codées par ce génome trouvent à se développer, à se manifester dans l'échange au sein d'une économie humaine. L'humanité ne se peut concevoir au singulier. Elle est forcément plurielle. Il en va de l'humanité comme du rougeoiement d'une bûche isolée dans l'âtre. Elle rougeoie de ses potentialités, mais ne flamboie point. Pour que jaillisse la flamme, ici, de l'humanité, il faut que les bûches rougeoyantes soient approchées les unes des autres pour qu'elles s'embrasent les unes les autres. L'humanité en l'homme doit être embrasée par l'autre homme. L'humanité en l'humain doit être embrasée par l'autre humain. Et c'est la raison pour laquelle Gilgamesh, dans Gilgamesh, Enkidu doit être confié par les dieux à ces femmes prostituées. Donc récit extraordinairement important, en fait. Imaginons, dans un monde totalement imaginaire, deux êtres qui sont biologiquement humains, qui auraient même le génome d'Homo sapiens, c'est-à-dire toutes les potentialités qui nous caractérisent et dont nous sommes si fiers, mais qui seraient d'abord isolés au sein du vaste monde. Et puis là, d'un seul coup, au bord du lac Léman, ils se rencontrent pour la première fois. Cécile, par exemple. Je la regarde activement, elle me regarde, je le vois bien. Et ses yeux qui me regardent sont le premier miroir dans lequel je me mire et où je me vois en tant qu'être humain. Elle me l'a permis. Et je lui rends l'appareil. Et ainsi, nous nous humanisons l'un l'autre. Je dépends tant d'elle pour m'instituer dans mon humanité. Elle dépend tant de moi pour s'instituer dans son humanité que nous sommes pratiquement obligés de convenir qu'il y a entre elle et moi un lien de réciprocité. Mais si réciprocité il y a, grâce à notre échange, moi j'en arrive à penser, c'est un problème compliqué, ma liberté et mon autonomie. Je me dois de respecter son autonomie et sa liberté. Si par hasard je tombe dans le Léman pas loin et que Cécile vient à passer, il ne me suffirait pas qu'elle respectât mon autonomie. J'aimerais encore qu'elle prît une bouée, un bout, qu'elle me les lance pour me sauver. Et je lui rendrai l'appareil. Principe de bienveillance. Je ne voudrais pas qu'elle me pousse dans le lac et je ne la pousserai pas. Principe de non-malveillance. Si vraiment entre elle et moi il y a de la réciprocité, comment pourrais-je m'accommoder de ce qu'elle est tout et que moi je n'ai rien ? Que j'ai tout et qu'elle n'ait rien. Principe de justice. Le principe de réciprocité qui permet à la pleine humanité de l'homme d'émerger dans la relation implique ces quatre grands principes que j'ai cités à dessein. Ce sont les quatre grands principes de référence de la réflexion éthique. Principe d'autonomie, principe de bienveillance, principe de non-malveillance et principe de justice. Si cette capacité à penser la réciprocité de l'autre n'avait pas existé, l'homme n'aurait pas émergé. Et donc, potentiellement, ces bases-là sont effectivement universelles et ontologiquement liées à l'émergence de notre humanité. Et pour moi, ce sont les références de la pensée éthique. Je n'ai pas le temps de vous parler du mal, mais en deux mots, je n'ai nullement prétendu que l'homme était conditionné à faire le bien. J'ai dit qu'il avait la capacité à penser l'importance de l'autre, de telle sorte que la définition du bien devient simple. Eh bien, tout ce qui manifeste la considération que j'ai pour la valeur de l'autre. Est mal tout ce qui nie cette valeur, voire même tente de la détruire. Le mal existe, car si le mal n'existait pas, le bien n'existerait pas non plus. Ce serait la nature humaine. Or, notre nature n'est pas d'être bon. Nous avons aussi la liberté d'être mauvais. Par ailleurs, je dépends tellement du regard que Cécile jette sur moi que là, d'un seul coup, je vois que je lui fais horreur. Je vois qu'elle me méprise, qu'elle me considère comme une chose infâme. J'en suis très déstabilisé car il m'est difficile de me connaître en dehors du regard qu'elle jette sur moi. Je vais lui en vouloir, voire même je vais vouloir la tuer. Comme dans le Victor Frankenstein, dans le Frankenstein de Mary Shelley, la créature va vouloir tuer son créateur, Victor Frankenstein, parce qu'il l'a empêché d'avoir son alter ego, qu'il l'a méprisé en cela. Le mépris est un facteur criminogène et un des éléments extrêmement importants du mal humain. Et je pourrais développer comme cela, mais tel n'est pas mon propos. Donc, il existe bien des bases universelles autour de la valeur de l'autre, sans lesquelles l'homme n'aurait pas émergé, et qui peut justifier l'effort de trouver des solutions à des dilemmes de l'ordre de ceux que j'ai résumés tout à l'heure, qui soient partagés. Pas forcément unanimes, ces choses-là sont compliquées. Mais en tout cas, parler de valeurs humaines qu'il s'agit de respecter est quelque chose que chacun d'entre nous, et toutes les femmes et tous les hommes, ont la capacité d'admettre. Voilà. À partir de ce détour par les bases philosophiques, les bases morales de la pensée éthique, abordons différents dilemmes que je traiterai à l'aide des outils que je vous ai présentés. Je suis un homme logique. On va commencer par le début de la vie, puis ensuite par la génétique proprement parlée, avant que d'aborder la fin de la vie, et de finir par le monde de demain où l'intelligence humaine ne sera plus, n'est déjà plus la seule intelligence sur Terre, à côté de l'intelligence animale non humaine, où elle sera concurrencée, défiée, dépassée par l'intelligence artificielle. Voilà le programme. Il faut que je traite assez rapidement les items, mais je répondrai à toutes vos questions concernant certains points que je n'aurais pas eu le temps d'aborder. Tout d'abord, je vous ai présenté le dilemme, l'embryon comme archétype du dilemme éthique. Il n'est jamais une chose banale, et cette considération que l'on a de la non-banalité de l'embryon doit-elle aboutir à des réserves particulières sur ce que l'on fait d'un embryon? En particulier, qu'en est-il de la recherche sur l'embryon? Si l'embryon n'est pas une chose banale, on peut comprendre très bien les réticences qu'il y a à créer des embryons totalement déconnectés de tout souci de projet parental, créer des embryons humains uniquement comme un matériau expérimental. L'embryon humain en soi n'est pas uniquement un matériau expérimental, si jamais on lui permet de se développer, il sera une personne. Or, l'éthique se fixe comme objectif de respecter cette personne. Ce qui implique qu'elle ait une certaine considération pour le début éventuel de la dite personne. Pour autant, faut-il s'interdire de mener des recherches sur ces embryons? Parce qu'ils seraient une personne humaine potentielle. Ce serait là bien singulier. Car la recherche médicale ne progresse que parce que l'on mène des recherches à tous les âges de la vie humaine. Et en quoi l'humanité potentielle de l'embryon devrait-elle interdire la recherche à ce seul âge de la vie humaine? Ce serait totalement incohérent. Alors, objectent les religieux qui sont défavorables à la recherche sur l'embryon. Oui, mais quand vous faites de la recherche sur une personne humaine, si vous ne travaillez pas trop salement, vous évitez de tuer le patient. Alors que l'embryon sur lequel vous aurez fait de la recherche, vous allez le détruire. Oui, mais dans ce cas-là, objecterai-je, il est dans le destin d'un embryon humain qui a été formé de naître un petit bébé que dans une proportion de 1 sur 3. Sur 3 embryons qui sont formés dans l'étreinte amoureuse entre un homme et une femme, il n'y en a pas plus de 33%, un tiers, qui devient un bébé. Pas plus. Merci beaucoup. Considérez que pour ces embryons qui ne seront jamais un bébé, parce que produits par fécondation in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, ils ne sont pas réclamés, pas utilisés pour cela. Considérez que les utiliser, plutôt que de les laisser mourir ou détruire sans autre forme de procès, les utiliser pour acquérir un savoir dont on attend une amélioration des perspectives de lutte contre l'infertilité humaine, contre des maladies humaines. En quoi cela serait-il moins reconnaître la particularité de l'embryon humain que cette destruction sans autre forme de procès dont j'ai parlé? Rien ne peut justifier, quelle que soit la considération que l'on a pour la singularité de l'embryon, qu'on s'interdise de mener de la recherche sur cet embryon. Cet embryon, parfois, risque d'aboutir à la naissance d'un enfant malade. Aujourd'hui, on sait déterminer cela par des diagnostics prénatals, voire même des diagnostics préimplantatoires. L'embryon est formé par fécondation in vitro et avant de transférer les embryons dans l'utérus, dans les voies génitales de la femme, on vérifie génétiquement qu'il n'est pas porteur de la mutation morbide. C'est quelque chose qui est mené maintenant relativement couramment. Une indication particulière est problématique, qui est celle de, entre guillemets, qui a été appelée ainsi, le terme est extrêmement mauvais, il est critiquable, mais c'est ainsi qu'on le connaît, de l'enfant médicament. Dans un cas qui est réel, qui a été vécu, celui de la petite Molly. Cette fillette est atteinte d'une maladie de Fanconi, qui est une aplasie médulaire d'origine génétique. Les enfants atteints par l'une ou l'autre d'une douzaine ou plus maintenant de mutations possibles, mutations génétiques possibles, ne sont maintenus en survie que par des transfusions répétées qui, à la longue, finissent toujours par tuer ces enfants. Le seul traitement salvateur est une greffe de cellules souches hématopoïétiques, greffe de moelle. Mais encore faut-il avoir un donneur compatible. Il y a plus de chances de trouver un donneur compatible, dans certains cas, dans la fratrie. Alors, dans ces cas-là, les parents font assez souvent d'autres enfants en espérant que ces enfants seront des donneurs compatibles. Dans le cas de Molly, les parents ne veulent pas un autre enfant malade pour une autre grossesse envisagée. Et donc, il demande un diagnostic préimplantatoire. Ce diagnostic est fait. Il y a plusieurs embryons non atteints. Et parmi ces embryons non atteints, avec l'autorisation des parents, la demande des parents, on regarde également les groupes tissulaires pour sélectionner les donneurs compatibles avec Molly. Et ce sont ces embryons non atteints et donneurs compatibles avec Molly qui sont mis en priorité dans les voies génitales de la femme. L'enfant naît, les cellules du cordon, cellules, le sang placentaire, est utilisé pour faire une greffe de cellules souches hématopoïétiques d'origine fœtale, sans embryonnaire, et Molly est mise en rémission complète. Que faut-il penser de cela ? On est devant le dilemme, toujours le même problème, le respect de la personne. D'après un impératif kantien d'Emmanuel Kant, l'un des impératifs le moins contesté en règle générale est celui qui dit « Fais en sorte de considérer l'humanité en ta personne comme en la personne de tout autre, jamais uniquement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. » L'enfant ne peut pas être uniquement un moyen de traiter sa fratrie, sa sœur en l'occurrence. N'est-ce pas là une instrumentalisation de l'enfant ? Mais à y regarder de plus près, est-ce que l'enfant n'est pas toujours le moyen d'un dessein des parents ? Imaginons la situation où l'enfant n'est pas du tout l'instrument d'un dessein. Cet homme et cette femme, grands intellectuels, considèrent que l'étreinte amoureuse est vulgaire et sale, et ils s'en abstiennent en règle générale. Mais là, ils veulent créer un être nouveau, un enfant, alors ils surmontent leur dégoût, ils s'étreignent. En plus, ils redoutent d'avoir un enfant parce que les fesses dans les couches, ça sent mauvais, c'est dégoûtant de nettoyer tout ça. Mais néanmoins, ils veulent qu'advienne un nouvel être et donc ils le font. Ce que je dis est absurde, naturellement. Ça ne peut pas exister. Quand on fait un enfant, c'est aussi parce que ce n'est pas désagréable en général quand on le fait. Et puis, ce n'est pas désagréable d'avoir un enfant. Puis on le fait également pour d'autres raisons. On a déjà un autre enfant et il lui faut une petite sœur ou un petit frère. On a une entreprise, il faut bien la léguer à quelqu'un. On a une ferme, il faut bien des bras pour travailler sur la ferme. On a un titre nobiliaire, royal, il faut bien un successeur. On est chinois et on espère bien que quand on sera bien vieux, le fils amènera une fille à la maison pour s'occuper des anciens. En réalité, la naissance d'un enfant, le projet d'un enfant, correspond toujours à un dessein, mais pas simplement. L'enfant est également, bien évidemment, une personne dont on va, par l'éducation et l'amour, faciliter l'épanouissement. Eh bien, le frère de Molly, comme les autres, il est certes le moyen de guérir Molly, mais ce n'est pas un moyen plus dégradant que tous ceux que j'ai évoqués. Mais il est aussi un enfant, un petit garçon à aimer et à élever pour lui-même. Et donc, il n'y a pas de raison de s'opposer en soi, en y regardant de près, au cas par cas. Souvent, l'éthique est un effort de casuistique. Il n'y a pas de raison de s'opposer à un tel dessein, alors même que j'ai toujours la même exigence de respect de la valeur de l'autre au cœur de ma problématique éthique. La génétique a fait des progrès considérables. Les gènes, lorsqu'ils sont mutés, ils ne travaillent pas bien, sont responsables des maladies génétiques. Il y en a plus de 3500. Guérir ces maladies génétiques en guérissant directement le gène dont le mauvais fonctionnement est responsable de la maladie est logique. Et c'est à l'origine de la thérapie génique. Et donc, il n'y a pas d'objection morale, éthique, à mener des essais et à réussir des expériences de thérapie génique. Dans un premier temps, la thérapie génique a utilisé la prothèse de gènes et non pas la réparation de gènes. La maladie est due à des gènes mutés qui ne fonctionnent pas. On ne sait pas les réparer, mais à la place des gènes mutés, on en met de nouveau d'autres copies extérieures qui, eux, vont fonctionner, vont faire le job. C'est la stratégie utilisée pour les quelques centaines, milliers maintenant, d'essais de thérapie génique qui ont eu lieu dans le monde. Mais les généticiens, les biologistes moléculaires font des progrès constants. Et aujourd'hui, ils sont vraiment capables de réécrire des portions de génome, d'éditer les génomes, comme on dit, l'édition de précision des génomes. Et donc, ils sont capables de corriger les gènes de leur mutation responsable de la maladie. C'est évidemment une amélioration remarquable. Rien à dire. Mais alors, quand je guéris un enfant, un jeune adulte malade par thérapie génique, il n'empêche que d'abord c'est difficile. Il faut réussir à faire entrer, à corriger le gène dans assez de cellules pour que la maladie soit tenue en respect. Et puis je ne corrige pas les cellules germinales, les ovocytes, les spermatozoïdes, et donc même guéri, ce malade continuera à transmettre la maladie. Un gène de la maladie. Ce serait drôlement mieux si on corrigeait les gènes dans l'embryon. Le premier type de thérapie génique est la thérapie génique somatique. La seconde est la thérapie génique germinale. En effet, pourquoi pas? Pour un agnostic tel que moi, rien n'est sacré. Et je ne vois pas pourquoi l'ADN serait sacré. En revanche, si rien n'est sacré, la raison est importante, donc raisonnons. Et regardons quelles sont les indications d'une thérapie génique germinale, comment devrait-on s'y prendre? Prenons l'exemple de la famille de Molly. Et bien voilà, c'est simple. On va prendre des spermatozoïdes de monsieur, des ovocytes de madame, on va faire une fécondation in vitro, et puis on va corriger les mauvais embryons de la mutation responsable de l'anémie de Fanconi. Mais évidemment, c'est idiot de faire ça, car je vous l'ai dit tout à l'heure, à côté, il y en a des bons. Donc, le scientifique qui choisirait les mauvais embryons pour essayer de les corriger en laissant de côté les bons serait un dangereux pervers. Les conditions dans lesquelles on pourrait faire de la thérapie génique germinale, en réalité, conduisent au tri d'embryons, nullement à la thérapie génique germinale. Cela vaut pour plus de 99% des cas. Alors, pour quelle raison les scientifiques du monde entier, après que la preuve de principe de la possibilité de corriger des mutations au niveau de l'embryon a été apportée, se sont-ils bruyamment réjouis de ce que la perspective thérapeutique pour ces maladies génétiques soit immense, si en réalité l'indication en est aussi faible? C'est que si le but n'est pas de corriger une maladie génétique connue, où l'indication est très faible, mais de modifier des gènes de telle sorte de conférer des propriétés nouvelles et avantageuses au lignage humain, non pas d'aboutir à un homme réparé, mais d'aboutir à un homme augmenté, alors oui, c'est la manière dont il faudrait s'y prendre. Mais évidemment, la question éthique devient tout à fait différente. Il n'y a pas de dilemme éthique à tenter de guérir une personne. C'est le métier de tout médecin. Posons maintenant sur le métier de l'interrogation éthique ce projet qui est d'améliorer, dans le cas que je présente ici, par modification génétique, d'améliorer un futur lignage. Regardons quel serait le but de cette amélioration. Premièrement, la Suisse étant un grand pays scientifique, vous avez des biologistes remarquables, mais n'étant pas une grande nation sportive, compte tenu de sa population, à part en tennis, dans beaucoup de domaines, compte tenu de la population, je pourrais désirer augmenter les chances de succès de l'équipe nationale d'haltérophilie en faisant naître des enfants promis à être des athlètes très costauds. Ou bien, afin de fournir de la taille à mon équipe nationale de volley-ball ou de basket-ball, fabriquer des filles et des garçons de plus de 2,5 m pour les filles et de 2,20 m pour les hommes. Extrêmement intéressant. Évidemment, la réputation éthique de tels projets va de soi. Faire en sorte de considérer l'humanité en ta personne, non seulement comme un moyen, mais toujours comme une fin. Ici, vous faites naître des enfants comme le moyen d'augmenter la force de votre équipe nationale de tel ou tel sport. Il n'y a aucune visée éthique dans un tel projet. Autre projet, oui, mais quand même, nous sommes susceptibles à beaucoup de maladies, à des maladies sexuellement transmissibles, le sida, aux hépatites. Nous sommes susceptibles également au cancer de la peau, dû aux rayons du soleil, un jour où il fait aussi beau qu'aujourd'hui. Si on pouvait modifier les gènes de manière à créer des femmes et des hommes résistants par mutation du récepteur des virus, des hépatites, du sida, d'autres récepteurs, par augmentation des systèmes de réparation de l'ADN, réparant les lésions créées par les ultraviolets du soleil. Cela ne serait-il pas bien? Ce serait surtout déraisonnable. Pour quelle raison? Ce serait déraisonnable parce que quand on envisage de créer de tels lignages améliorés, on sait que ce lignage vivra dans les générations qui viennent. Mais quels seront les périls auxquels l'humanité sera confrontée dans les générations qui viennent? Quel virus sera menaçant? Quelles seront les conditions de vie dans 100 ans, dans 2 siècles? Personne ne le sait rien. L'évolution, elle, est beaucoup plus humble. Elle ne fait aucun pari. Elle sélectionne en permanence ce qui ne convient pas trop mal. Et elle désavantage le reste. Quel hubris incroyable de créer un homme amélioré pour vivre dans un environnement que personne ne peut connaître. C'est absurde. Alors non, il faut mettre la barre plus haut, où les transhumanistes la mettent. Créer un homme plus intelligent, qui a plus de mémoire, un homme plus humain. Un homme plus humain, c'est aussi un homme plus créatif, plus amoureux, plus solidaire, plus généreux. Entre vous et moi, la modification des gènes qui permettent d'avoir un homme dilaté dans son humanité de la sorte, personne ne les connaît. Il y a quelque chose d'un peu absurde, mais peu importe. Imaginons que néanmoins, on puisse le faire. L'interrogation, dès lors, vient de la nature du dessin lui-même. Les transhumanistes se fixent comme dessein le dépassement de l'homme tel qu'il existe afin qu'apparaissent des lignages d'hommes augmentés. La critique que j'ai faite de la démesure de savoir ce qui conviendra pour un environnement en perpétuelle modification vaut pour ce dessein. Mais par ailleurs, le questionnement mérite de s'arrêter à une autre question. Je suis médecin. Lorsque j'essaye de transformer un homme malade, une femme malade, en une personne bien portante, je lutte contre les inégalités de nature, l'inégalité créée par la maladie. Je suis le président d'une importante fondation qui œuvre dans le domaine du handicap. Lorsque j'essaye de faire en sorte qu'une personne handicapée soit aussi incluse dans la société qu'une personne valide, là encore, je tente de contrecarrer les inégalités de nature. Plus généralement, la science et la technique. à quoi aboutit-elle? Il y a quelques siècles de cela, un gros costaud, un malabar, avait beaucoup plus de chances de s'en tirer dans la vie qu'une frêle jeune fille et surtout qu'un petit chétif malingre. Aujourd'hui, ma foi, le petit chétif malingre, il peut se débrouiller dans la vie largement aussi bien que le gros costaud, parce que la technique, les véhicules, les machines, tout le lui permet. C'est-à-dire que, très généralement, je mets de côté le secteur des armes, naturellement. Très généralement, la science et la technique ont été mobilisées jusqu'à présent pour essayer d'atténuer les inégalités de nature. Or, les transhumanistes nous proposent comme dessein d'inverser tout à fait la proposition et de créer de nouvelles inégalités de nature, de faire apparaître de nouvelles aristocraties, de nouveaux lignages. La critique ici est une critique fondamentale du dessein par lui-même. Et donc, vous voyez que l'utilisation de l'édition de précision du génome pour corriger des gènes d'une personne atteinte d'une maladie génétique ou pour faire apparaître un lignage nouveau ne peut pas être traité du tout de la même manière d'un point de vue éthique. Le séquençage des génomes humains fait des progrès fabuleux. Aujourd'hui, il est possible pour quelques centaines d'euros ou de francs suisses d'avoir le génome utile, de faire séquencer son génome. Il y a de nombreuses officines qui vous le proposent. Vous faites déverser les résultats sur votre iPhone et vous allez voir le médecin en lui disant: écoutez, voilà, j'ai la séquence de mon génome, dites-moi ce que je dois en faire maintenant. Alors le médecin, il va l'avertir à deux niveaux. Premièrement, il va dire: écoutez, c'est bien, très bien, on va le traiter, on va voir ce que ça m'indique. Mais ne vous faites pas d'illusions. Quand on regarde les maladies dont souffre l'humanité aujourd'hui, environ un tiers de ces maladies, un tiers de la morbidité est liée à des conduites à risque. Conduites alimentaires, conduites sexuelles, intoxication par l'alcool, par le tabac, sport extrêmement dangereux, etc., etc. C'est facilement 30% de la morbidité. Or, pour l'essentiel, les ressorts de cette morbidité sont économiques, psychologiques et sociaux, éventuellement culturels. Ils ne sont pas prioritairement génétiques. Et donc moi, médecin, que voulez-vous? Je suis capable éventuellement de vous dire ce qu'indique votre génome. Je ne suis pas capable de vous indiquer quelles seront vos réactions à votre situation dans la société. Quelle sera votre réaction au chômage, au risque du chômage, à l'infidélité de votre conjoint, etc., etc. Je ne peux pas vous dire. Et donc, il y a une limite, évidemment, à ce pouvoir de prédiction. Bon, bah, très bien, docteur, mais pour le reste, bon, bah, écoutez, on va voir. Laissez-moi le temps de demander à l'ordinateur central auquel je suis abonné de traiter les informations. Le malade revient une semaine après. Alors, docteur, écoutez, oui, on a bien travaillé et il y a pas mal de choses. Tout d'abord, vous avez un peu une faiblesse dans les systèmes de réparation des dimères de pyrimidine formés par les rayons du soleil. Et donc, sortez toujours couvert, parce que le soleil risque vraiment, plus que chez d'autres, de provoquer des cancers. D'ailleurs, sortez toujours couvert également pour une autre raison, c'est que, compte tenu de vos récepteurs d'agents infectieux, vous êtes incroyablement sensible aux maladies sexuellement transmissibles. incroyablement sensible. Et puis malheureusement, vous avez également une petite anomalie du système des apolipoprotéines, avec un mauvais métabolisme des graisses qui se transforment facilement en cholestérol, qui vont boucher les vaisseaux. Et donc, je vous conseille de faire une croix définitive. Évidemment, sur le foie gras, ça va de soi, mais même sur pratiquement toutes les viandes, peut-être un peu de jambon maigre, si vous voulez, mais... Et essayez surtout de focaliser votre régime sur les radis crus, éventuellement les poireaux bouillis à l'eau, sans sel car ça donne de l'hypertension, et avec un filet de citron. Ah docteur, c'est dur ce que vous me demandez quand même, c'est dur. Mais au moins, moi ce qui m'intéresse, c'est de vivre vieux. C'est de vivre longtemps. Alors je vais faire tout ça. Et vous me promettez, docteur, je vais vivre longtemps. Ah, mon docteur, il est d'une incroyable franchise. Incroyable. Ah, monsieur, je ne peux pas totalement vous dire cela. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous assurer, c'est que la vie, elle vous semblera longue. Donc, il faut savoir raison garder. Aussi, par rapport à cet extraordinaire pouvoir de la génétique. Maintenant, je vous ai parlé du début de la vie, de la génétique. Parlons maintenant de la fin de vie, pas de l'euthanasie, du suicide assisté, on en a trop parlé. Moi-même, je suis engagé dans trop de débats. Mais je vais vous en parler comme l'un des exemples particuliers, l'un des objectifs que se fixent les tenants du projet transhumaniste. L'un des fléaux épouvantables dont souffrent les humains, c'est de vieillir et de mourir. Et donc, ce que l'on espère avant tout, c'est l'invulnérabilité et presque l'immortalité. Un de mes confrères extrêmement célèbre, il y a quelques années, annonçait à ses assistantes nombreuses et médusées « Il y a parmi vous tant de personnes qui vivront 5 siècles. » Je vais aborder cette question à 2 niveaux. La véracité de l'annonce, la probabilité de l'évolution, mais également la moralité du dessein. Tout d'abord, ceux qui disent que grâce à l'extraordinaire évolution de la technique, aujourd'hui, on est à 2 doigts d'avoir vaincu la mort et donc d'aboutir à l'immortalité, disent profondément n'importe quoi. Aucune expérience, aucune, sur quelque modèle expérimental que ce soit, sur quelque animal que ce soit, le plus simple qui existe, n'indique le petit début d'un commencement d'une réalisation d'un tel projet. On travaille beaucoup sur le vieillissement de 2 modèles, bien plus simples que l'homme, que les mammifères, la drosophile du vinaigre, Drosophila melanogaster, et un délicieux petit ver qui s'appelle Caenorhabditis elegans. Caenorhabditis elegans est vraiment très simple. Adulte, il n'a que 965 cellules, alors que nous, on en a 5 000 milliards. Et de fait, on comprend bien les mécanismes du vieillissement de Caenorhabditis, et on a déterminé que ces mécanismes étaient assez voisins des nôtres, d'ailleurs de ceux des mammifères, des nôtres, ceux des mammifères. Et grâce à cette connaissance et à la simplicité de Caenorhabditis, qui vit habituellement 25 jours, on arrive, c'est merveilleux, à le faire vivre jusqu'à 50 jours. Mais on ne le fait pas vivre aussi longtemps qu'une souris qui vit 2 ans et demi à 3 ans. La souris, grâce à l'application de ses connaissances, on arrive à la faire vivre 3 ans et 3 mois, mais pas aussi longtemps qu'un bovin ou qu'un cheval qui vivent 20 ans et au-delà. Pas aussi longtemps qu'un éléphant, qu'un humain qui vivent en allant vers le siècle. bien entendu. C'est-à-dire que tout ce que l'on sait faire, connaissant les mécanismes du vieillissement, c'est une petite variation sur un thème. En aucun cas, rien qui n'indique que l'on maîtrise l'immortalité. Vous savez, dans les annonces de science-fiction, il y a deux types d'annonces. L'une qui, de manière évidemment problématique, hypothétique, prolonge les connaissances connues en disant voilà ce que l'on a fait et si on imagine que cela continue, alors on arrivera. Ça, c'est la science-fiction A. Aucune science-fiction de ce type n'indique que nous soyons à l'heure de maîtriser l'immortalité. Aucune. Maintenant, il y a une autre science-fiction qui est la mythologie. On aimerait que nous fussions immortels. Donc, imaginons que nous le serons et annonçons qu'on le devient. Mais vous voyez, c'est tout à fait différent. Maintenant, simplement, une remarque. Nous sommes donc 7 milliards et 500 millions de terriens hein, aujourd'hui. On va atteindre les 10 milliards, peut-être pas plus. Nous voyons bien que si jamais le monde devenait immortel, ce serait aussi le résultat d'un choix. Comme on ne peut pas tout de même peupler la Terre de 100 millions de personnes, si les gens ne meurent plus, il faudrait arrêter les naissances. Donc, il faut voir le monde que l'on préfère. Hein. Et c'est un monde où il y a des petits qui piaillent, des petites à séduire, ou des jeunes hommes à séduire, ou un monde où nous arrivons, nous persistons sur notre air, comme on dit des bateaux, qui ne coulent pas. Cela étant dit, il y a du fantasme, il y a des conséquences qui sont terrifiques, mais en soi, le fantasme de l'immortalité est aussi vieux que le temps. Dans la mythologie, les exemples en sont innombrables. Les modèles en sont également tout à fait nombreux. Ça, c'est individuel. Que quelqu'un, à un moment donné, même quand c'est une grande star de la littérature ou bien une grande star des médias, désire ne pas mourir, je ne vois rien à lui opposer. Voilà, c'est une liberté. Il mourra quand même, je le regrette pour lui, mais enfin, qu'il aime et qu'il désire être immortel, ça ne me pose aucun problème. Personnellement, si ça vous intéresse, je ne suis pas comme eux. Dans mon dernier livre, Chemin, je décris ma vie d'un penseur, mais aussi d'un marcheur, qui pense en marchant, d'un homme en chemin. Et je dis combien j'ai été amoureux de la vie, de la beauté, des femmes, de l'amour, des enfants, de la science, amoureux fou. Combien j'ai essayé de vivre intensément cette vie-là, comme une pièce de théâtre inouïe. Mais même lorsqu'elle est inouïe, voyez-vous, une pièce de théâtre qui s'éternise devient ennuyeuse. Et je n'aimerais pas qu'elle le devint. Donc je ne demande nullement, pour ma part, à être immortel. Je terminerai par le monde de demain, où la qualité supérieure, inouïe, dont nous sommes si fiers, celle de penser de manière si merveilleuse, de créer, sera de plus en plus concurrencée par des machines intelligentes. Elles sont déjà incroyablement performantes alors qu'elles sont encore très bêtes. Mais parce qu'elles ont une mémoire quasiment infinie, qu'elles travaillent infiniment plus vite que nous, les performances de ces systèmes numériques qui nous entourent sont déjà inouïes. Or, ces machines, depuis maintenant 6 ans, 8 ans, ont commencé de devenir vraiment intelligentes. Elles apprennent toutes seules. Elles apprennent les unes des autres. Je vais vous donner un exemple qui fixe bien les esprits. Ça fait déjà quelques années que les scientifiques ont conçu un ordinateur capable de battre les meilleurs grands maîtres au jeu de Go. Comment s'y sont-ils pris ? Ils ont rentré dans une machine un programme dérivé de l'expérience acquise par un des grands maîtres du jeu de Go. Et sur la base de cette expérience remarquable, ils ont ajouté les capacités de mémoire phénoménales et la rapidité opérationnelle de la machine, imbattable. Mais maintenant, ils arrivent au même résultat différemment. Il y a moins d'une année de cela, ils sont partis, mais avec les nouveaux mécanismes d'apprentissage, deep learning, apprentissage profond, ils sont partis de deux machines naïves qui ne connaissaient qu'une chose, c'est les règles du jeu de Go. Mais aucune stratégie. Et ils se sont mis à faire jouer les machines l'une contre l'autre. Fort mal au début. Mais après chaque partie, l'une ou l'autre la gagnait de manière aléatoire, elles apprenaient l'une et l'autre de leur succès ou de leur échec. Et l'on recommençait. Au bout d'un certain nombre d'itérations, ces machines sont devenues imbattables par n'importe quel grand maître humain. Spontanément. Ça, on en est déjà là. Et personne ne peut savoir exactement quelle sera la limite de ces systèmes qui se développent. Ils vont totalement bouleverser l'humanité de l'homme, plus que toute autre innovation antérieure dans l'histoire humaine, à l'évidence. La médecine en particulier. Aucun médecin, même extrêmement savant, ne peut rivaliser avec une machine pour faire le bon diagnostic, étudier les images, les examens chimiques, connaître tout ce qui a été emmagasiné, en établir un pronostic, un traitement, suivre l'évolution. L'humain est faible par rapport à ce que la machine peut déjà et pourra de plus en plus en ce domaine. Cela dit, il y a un paradoxe singulier. C'est que le but de la médecine, à l'exception de la psychiatrie, est de guérir les corps. Et les médecins humains sont tout à fait concernés, car eux aussi ont un corps. Et donc, cela facilite l'empathie, la compréhension. Cela explique ce qu'il y a de convaincant dans cette affection dont témoigne le médecin lorsqu'il tapote la joue du malade, lorsqu'il prend sa main, lorsqu'il le regarde en souriant, lorsqu'un échange s'établit. Tout cet aspect de la médecine, que moi j'appelle la câlinothérapie, équivaut pour près de 50% de l'efficacité thérapeutique. Or le paradoxe, c'est que la machine, même la plus intelligente, n'a pas de corps. La machine n'a pas de corps. Elle n'a pas de sexualité, elle est irrémédiablement chaste. Et donc demain, existera dans le monde deux systèmes intelligents. On peut parler d'intelligents. Un système incroyablement intelligent, mais dans lequel au mieux on aura passivement et artificiellement entré des émotions humaines, des capacité humaine à l'empathie, mais qui ne peut pas les acquérir spontanément, dépourvu de corps. Je fais à ce niveau-là souvent référence à cette affirmation de Picasso, en parlant de l'art. L'art n'est pas chaste, disait-il. S'il est chaste, ça n'est pas de l'art. Les machines sont désespérément chastes. Il ne faut pas une machine très élaborée pour arriver à nous faire jouir, mais tentez donc de faire jouer une machine. Vous verrez que ça n'est pas coton. Tout un monde de l'émotion en interaction avec l'esprit, qui est le monde humain, est un monde qui est étranger à la machine. Cela veut dire que dans l'acte médical, bien entendu, à côté de cet apport incontestable de cette intelligence artificielle, il y a toute une présence, un échange entre des humanités exacerbées, des regards qui s'échangent, des affections qui sont perceptibles, des cœurs qui battent à l'unisson, qui dans leur efficacité ne sont guère concurrencés naturellement par cette machine d'une chasteté définitive et dépourvue de corps. Et cela est vrai, bien entendu, dans le monde général qui se prépare. Il sera bouleversant. La plupart des activités humaines seront impactées par ces machines. La question se pose, par conséquent, dans le domaine de la médecine comme dans tous les autres, quelle sera la part de l'humain ? Si l'humain arrive à n'être pas trop intimidé par les remarquables performances de ces systèmes, qui pensent tellement vite que l'humain se résigne à ne plus penser, et s'il pense à préserver cette forme de créativité à l'interface, dans l'interaction, dans la résonance de l'esprit et du corps, l'esprit étant une partie du corps. S'il pense à privilégier ce bonheur humain qui est difficilement concevable en faisant l'économie du corps, alors ce monde qui se prépare, qui est très déstabilisant, qui est vertigineux, pourra encore être un monde de l'humain. Mesdames et messieurs, je vous remercie.